On en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Vous êtes plusieurs à écouter nos nouveaux shows et manquez-nous pas dans la période des fêtes parce que 22, 23, 24 décembre, c'est moi, Pascal CV, Mathias Turcotte de 7h à 10h le matin. Max Larouche est là pour le point de Max de 11 à 13 et Audrey Pinchot est là également pour les meilleurs moments de Gravel dans le retour de 14 à 18. Le Gravel du temps des fêtes le 24 décembre en rediffusion le 1er janvier. Puis la fin de semaine, ben Pascal, c'est notre excellente programmation. Ça change pas. Ça va être ça en fin de semaine. Ça va être ça les deux fins de semaine du temps des fêtes. Le Rock and Chill de 7 à 10. Le Boulevard du Rock avec soit Dan Caron ou Colosse. Dan Caron le samedi, Colosse le dimanche. Et le Rack à Mat
oui.
De 15 à 17 heures. Donc, soyez avec nous durant cette belle période. Retour de la programmation officielle le 5 janvier. Sans Marceau. Ça va être encore moi, toi et Max Larouche. Et... toi, en plus, tu te permets un petit 29, 30, 31 décembre de 7 à 10 avec Mathias Turcotte.
Absolument. Je serai présente aussi pour passer 2025 dans le tordeur.
Ouais, exactement. Pascal, on en jase. C'est une émission où on jase des affaires importantes.
Mm-hmm.
Ouais, pis là...
déjà, les gens jasent avec nous par texto sur le sujet.
Là. Exactement. On a déjà plein de textos qui sont rentrés et on a le plaisir d'avoir avec nous le président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec et médecins à l'urgence de l'hôpital L'Enfant Jésus, Pascal Renaud. Monsieur Renaud, comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Good. Pascal, c'est une belle journée pour les médecins avec cette offre qui est acceptée à 97%.
Oui, c'est une belle journée pour les médecins, mais c'est aussi une belle journée pour les patients.
Okay.
Parce que moi, depuis qu'on a annoncé une entente de principe,
mm-hmm.
je n'ai pas de nouveaux médecins qui m'ont annoncé qu'ils allaient quitter.
OK, oui, donc en ce sens-là.
Pour moi, c'est un gros plus qu'on a eu là, suite à ça. Puis, dès qu'on a pu annoncer à nos médecins là, l'entente de principe, on s'est déjà mis... au travail, puis on a rencontré tous les médecins qui nous avaient écrit qu'ils allaient démissionner, ceux qui nous disaient qu'ils allaient prendre leur retraite prématurément. Mais on en a rencontré pour dire, écoutez le webinaire, écoutez ce qu'il y a comme entente de principe. Après ça, allez voter si elle est prise, si elle est acceptée par l'ensemble des médecins. Puis réévaluer la situation. Mm-hmm. Parce que pour nous autres, j'étais venu vous voir, hein, c'était 34 ouais. médecins qui avaient annoncé qu'ils quitteraient. Donc là, dans ceux que j'ai rencontrés, il y en a au moins une quinzaine déjà qui m'ont dit qu'ils allaient rester grâce à cette entente-là.
Grâce à cette nouvelle
Donc,
entente.
Ça, c'est probablement autour là, de 15 000 patients qui ne perdront pas leur médecin.
Il y a des gens qui nous écrivent, puis c'est ça, là, on le voit tellement. Il y a de la frustration dans le public, là, si on veut, là, pas entre nécessairement le gouvernement puis votre équipe. Mais il y a quelqu'un qui écrit, ça veut-tu dire que les Québécois se sont encore fait avoir si l'entente a été acceptée à 97%.
Ben en fait, moi, j'ai eu beaucoup de « oui, mais ». J'ai voté « oui » parce que l'alternative, c'était la loi 2.
Mm-hmm.
La loi 2, ça coupait la rémunération entre 15 et 50% là, pour les médecins qui avaient fait des simulations. Donc, c'était pas une option. Hein. C'est un peu comme « c'est ça ou je te coupe une main ». Donc, les gens ont voté oui, mais il y a quand même encore de l'insatisfaction, il y a encore des inquiétudes chez les médecins suite à cette entente-là.
Concrètement, comment on va réussir? Parce que François Legault a dit que ça va être des milliers, des dizaines de milliers de Québécois qui vont avoir un médecin de famille avec cette entente-là. Concrètement, comment on va réussir à faire ça?
Bien, en fait, moi, j'ai déjà rencontré là, les leaders des cliniques lundi dernier. Je leur ai dit, écoutez, on a une certaine obligation là, auprès de la population parce qu'ils nous ont quand même appuyés là, pour faire retirer la loi 2 qui était une mauvaise loi.
Mm-hmm.
Puis on leur doit quelque chose. Donc on a essayé de faire un brainstorming ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en prendre plus? Puis déjà, dans les idées qui sont sorties, il y a des médecins qui vont engager du personnel supplémentaire pour les aider pour les cas qui sont un peu plus faciles. Donc un travail de collaboration avec des infirmières, puis... qui vont nous permettre de prendre en charge plus de patients.
Est-ce qu'il y a assez d'infirmières disponibles pour ces embauches-là?
Bien, il y en a beaucoup hein, qui sont partis du réseau public. Il n'est pas très attrayant, le réseau public, là, pour les infirmières. Il y en a qui sont allés dans des compagnies d'assurance. Il y en a qui sont allés dans le privé. Il y en a qui sont allés dans des soins esthétiques. Donc, on est probablement capable d'aller en chercher dans ces infirmières-là qui ont déjà quitté le public. Notre but, ce n'est pas de déshabiller le public, les amener dans le... On est aussi le public là, en GMF, mm-hmm. mais d'aller les chercher comme infirmières là, qu'on par engage exemple, à même nos revenus. Là. Donc, c'est le but, c'est pas aller les prendre dans le public, mais il y en a plusieurs qui ont déjà quitté, qu'on est probablement capable d'aller chercher dans un travail qui va être stimulant pour elles aussi. Là.
On avait parlé de beaucoup de fermetures, justement, de cliniques avec la loi 2. Qu'est-ce qu'il y en est avec la nouvelle entente? Parce que là, tu parles de personnel additionnel qui va être ajouté. Fait que je me dis, est-ce qu'il y a une bonification salariale pour les médecins? Comment ça va fonctionner?
Ben en fait, actuellement, les médecins, dans la loi 2, il y avait un retranchement de 30 % de leurs revenus qui était envoyé directement aux cliniques. Puis ça agaçait les médecins. Nos frais de bureau ressemblent à peu près à ce 30 %-là. Là. Mais est-ce qu'il y avait une garantie de service si ça allait directement à eux par rapport à une fois que je paie mes frais de bureau, mais je m'attends à avoir des services, puis j'ai une meilleure relation en disant, mais tu as certaines obligations par rapport à moi. Donc, ça a été enlevé. Donc, ça laisse les médecins là, plus satisfaits, puis avec une meilleure espérance de garder des services là, qui sont avec ça. Par contre, les cliniques qui menaçaient de fermer, dans la région, il y en avait trois. Je ne sais pas si on en avait parlé.
Oui, oui.
C'est des bails qui venaient à échéance. Puis, le contrat GMF est un contrat qui, à chaque année, changeait. Un gros point positif de cette entente de principe-là, c'est qu'on a gelé pour 5 ans les conditions du programme GMF. Donc, une clinique peut maintenant se projeter dans le temps jusqu'à 5 ans, à savoir, bien, je connais les paramètres qui seront là, puis je ferai un budget en conséquence, puis je peux m'engager sur un bail de 5 ans.
Ce qui n'était pas le cas
avant, non.
Les médecins de famille aussi déploraient le fait qu'ils étaient traités un peu comme les autres spécialités, puis même les autres spécialités, on devait les découper une à une parce que le projet de loi était englobant, point. Il n'y avait pas vraiment de réflexion faite par rapport à une spécialité comme la médecine familiale. Puis, il y a un haut pourcentage de médecins qui ont en haut de 50, en haut de 60 ans là, dans ce cas-ci. C'est des médecins qui, encore en pleine dévotion de leur personne au niveau personnel et professionnel qui traite des patients, qui envoie, qui donne un sacré coup de main au système de la santé. Comment est-ce que le nouveau projet de loi ou avec ses arrangements, etc., on est capable de faire en sorte de les garder dans le réseau, mais de peut-être alléger leurs horaires de travail, les laisser avoir une liberté pour tout ce qu'ils ont offert à la société dans les dernières
années? C'était très, très important pour nous autres quand on était à la table de négociation, ce point-là.
Parce qu'ils vont juste quitter, sinon, pour avoir peine dans le gros batch.
Dans la capitale nationale, là, c'est 30 % de nos médecins qui ont plus de 60 ans. Puis ils suivent un patient sur trois. C'est 34 % des inscriptions individuelles, c'est eux qui les font.
C'est fou, là.
Donc, dans cette entente-là, on a réussi à obtenir...
Tu les envoies dehors, puis ils reviennent pas, là.
On a réussi à obtenir quelque chose d'important, là. Un médecin de 60 ans ou plus peut continuer sur le mode actuel, s'il le préfère, par rapport au mode de capitation qui s'en vient.
Quelle est la grosse différence, justement, entre le mode actuel puis le mode de capitation?
Bien, le mode actuel, c'est 100 % acte. Hein. Mm-hmm. Je fais un acte médical, j'ai un revenu associé à cet acte-là, point. Le mode de capitation, bien, il y a trois volets. Le fait de s'engager à prendre un certain nombre de patients va donner un montant associé à ce patient-là. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Qu'on le voit une fois ou qu'on le voit 9-10 fois dans l'année, ça va être le même montant. Le montant va varier, par contre, si le patient est un patient très vulnérable, un cancer en phase terminale, versus un jeune homme de 15 ans qu'on risque de ne pas voir. Donc ça, il va avoir ces adaptations-là. Mais c'est la première fois
qu'un médecin mette, mettons, 20-30 patients de 15 ans sur sa liste.
C'est parce que ça sera pas, il n'y aura pas une grande rémunération qui va être associée à ça. Donc, ça sera, le but, c'est quand même qu'on prenne les plus vulnérables. Puis dans les 500 000 qu'on vise à prendre, on s'est engagé à prendre les 180 000 vulnérables. Là. Ça va être la priorité. Puis ça, c'est pas nous qui les choisissons, c'est les guichets d'accès qui nous les envoient. Puis eux ont eu une missive en leur disant, bien, ça sera ceux-là qu'on envoie en premier. Puis c'est ça qu'on veut voir les patients les plus malades là, quand on est médecin. On veut aider les gens qui en ont le plus besoin. Là.
Au niveau de ce qui a chopé avec le gouvernement, au niveau du ton, au niveau de la relation, peut-être une petite parenthèse sur le fait que Christian Dubé a démissionné ou s'est fait mettre à la porte. Là. Ça dépend ce qui s'est passé entre les murs. On n'a pas vraiment l'histoire.
Moi non plus.
Vous non plus?
Non.
Aucune information à ce niveau-là?
Aucune.
Étiez-vous surpris?
J'étais plus ou moins surpris parce que l'attitude qu'il y a eu dans les derniers mois était vraiment de dire que c'était important que cette loi-là reste intégrale. Puis on a réussi quand même à changer certains des articles parce que nous, on est sur le terrain. On voit les effets de cette loi-là. Puis on a réussi à sensibiliser le premier ministre au fait que même si la loi visait à prendre plus de patients, mais l'effet concret sur le terrain de plusieurs de ces articles-là était fait qu'il y en ait moins de médecins qui restent, donc moins de patients qui soient pris.
Vous sentez qu'il y a de votre bord, François Legault, ou vous sentez qu'il le fait parce qu'il veut se faire réélire?
Bien, d'après moi, un politicien veut toujours se faire réélire.
Oui, c'est ça.
Donc, j'ai de la misère à répondre à cette question-là. Mais je pense que les patients qui ont manifester à leurs députés des inquiétudes. Moi, j'en ai rencontré plusieurs députés. J'ai plusieurs médecins du territoire qui ont dit aux députés, ben, je ne sais pas ce que le gouvernement vous dit, ce que votre ministère vous dit, mais concrètement, les impacts vont être négatifs. Puis les députés que j'ai rencontrés m'ont assuré qu'ils allaient monter ça plus haut. Est-ce que ça a quelque chose à voir? Probablement. Mm-hmm. Mais...
Je termine là-dessus. Vous parlez de 500 000 nouveaux Québécois qui vont avoir un médecin de famille. 180 000 de ceux-ci sont des patients vulnérables. C'est quand la date où ces 500 000-là et ces 180 000-là vont avoir un médecin de famille?
L'objectif qui nous a été dit, là, c'est le 30 juin prochain.
OK, donc ça vient vite.
Il faut qu'on s'active rapidement. Puis il faut aussi que Santé Québec mettre en place des mesures pour qu'on réussisse à atteindre ça. Là. Mm-hmm. Donc, des cliniques où le personnel n'est pas tous fourni, pas remplacé, il va falloir qu'il y ait une activation de leur côté pour s'assurer qu'on ait tous les bras pour nous aider à atteindre ça.
Est-ce qu'ils se sont engagés à le faire?
Santé Québec a été très silencieux à l'automne. Moi, je ne les ai pas entendus beaucoup. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de rencontrer des gens de Santé Québec.
Non. Mais
pour moi, je n'ai pas entendu beaucoup de gens de Santé Québec se prononcer à date.
Donc, ça va être la prochaine chose à suivre, Pascal Cévé. Au retour des vacances de Noël, il faut parler avec quelqu'un de Santé Québec. Parce que le 30 juin, ça vient vite, puis on veut que ces 500 000 personnes-là aient leur médecin.
Nous aussi, on veut. Là.
Ouais. Pascal Renaud, merci d'être passé en studio avec nous. C'est super intéressant. Je le rappelle, Pascal Renaud, qui est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Joyeuse fête!
Bien, merci, joyeuse fête à vous et à vos auditeurs aussi.
Merci de continuer à prendre soin de la santé des Québécois, c'est très important. Je sais que toi, personnellement, tu vas travailler à l'urgence durant le temps des fêtes, donc merci d'être là, honnêtement, je reconnais et je salue l'excellent travail que vous faites.
Oui.
Bien, merci.
Fait
joyeuse
plaisir.
Fête, vraiment.
Oh, oui.
Là.
Oui, vous le méritez. Après cette année rocambolesque, vous méritez d'avoir des bonnes fêtes et une bonne année 2026 sans trop de négociations avec le gouvernement. Je pense que ça vous ferait énormément de bien. Après la pause, Pascal, on passe de la santé, on va parler d'éducation parce que Rémi Villemur, un chroniqueur qu'on adore, qui est là d'habitude le jeudi, mais qui s'est fait voler sa place par Bruno Marchand hier. Mais ben là, j'ai dit, Rémi, viens finir l'année 2025 avec nous. Puis il veut nous parler de grandes règles en éducation qui ont changé, qui avaient fait un tollé, puis finalement, on se rend compte, c'est donc bien cool.
Ça a bien fait.
Le cellulaire, l'interdiction du cellulaire à l'école. On va revenir sur ce grand changement dans le domaine de l'éducation avec notre chroniqueur Rémi Villemur immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.